Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Pendant tout ce tour du monde, je crois que vous avez tout subi, tout affronté, vous avez frôlé la mort. C'est un projet que vous imaginiez aussi périlleux lorsque vous vous êtes lancé?
C'est sûr que c'était un peu l'aventure d'une vie. Et puis, quand j'ai préparé en plus tout ce défi, on était vraiment... à deux au départ, hein, même si le petit bateau catamaran de sport avait fait que 6 mètres de long, c'est un projet qu'on devait réaliser à deux. Et quand mon équipier, Vincent Beauvarlet, a débarqué au bout de 10 jours de mer, suite à des problèmes de santé, ça a été un peu complexe et une décision qu'il fallait que je prenne. Est-ce que je continuais seul ou est-ce que j'abandonnais l'aventure? Donc ça a été totalement improvisé, mais finalement je suis bien accoutumé à cette navigation en solitaire en catamaran de sport.
Un tour du monde effectué sans assistance, ça veut dire quoi pour les profanes que nous sommes?
L'idée, c'était vraiment de naviguer de manière totalement épurée, de ne plus subir d'aide extérieure, donc de ne pas recevoir d'informations par les satellites, donc notamment les positions GPS, de ne pas recevoir d'informations météorologiques, ce qui m'empêchait d'éviter les tempêtes notamment, et puis de naviguer complètement à l'ancienne, au sextant, et tout ça sur une... un bateau dépouillé d'électronique et de protection, puisqu'il n'y avait pas non plus de cabine. Donc voilà, j'ai vécu vraiment à l'air libre, à la belle étoile, comme on dit, pendant presque un an et demi.
Pas d'infos météo, du coup on ne peut pas éviter les tempêtes, et ben, vous ne les avez pas évitées, hein, les tempêtes.
Non, oui, ça fait à peu près une dizaine de tempêtes au-dessus de 100 km/h. Alors effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Il y a eu deux chavirages, notamment dans l'Atlantique, après ça a été un peu mieux. Mais il y a eu des échouages, il y a eu le bateau qui s'est brisé en deux, il y a eu des blessures graves comme un bras arraché et puis une hernie discale. Mais voilà, il y a aussi eu beaucoup de moments de bonheur, des escales où j'ai pu vraiment me recharger en énergie parce que je faisais vraiment le tour du monde par l'équateur et que voilà, il fallait absolument que je me repose quand même sur certaines escales pour réparer le bateau et me reposer, mais voilà, tout ça a été une aventure extraordinaire.
Un bateau de 6,30 m, on en a vite fait le tour, surtout lorsqu'on est seul dessus, c'est pas une solitude écrasante parfois?
En fait, la navigation la plus longue a été de 25 jours, donc finalement, c'est des choses que je maîtrise à peu près, hein, quand j'avais fait la Mini Transat en solitaire. Déjà, en 1995, j'avais fait 21 jours de mer, donc je connaissais le solitaire. Là, c'est sûr que c'était le fait de reproduire et de repartir tout le temps sur un nouveau défi. Hein. Il y a eu 15 étapes. Voilà, mais finalement, j'y ai pris goût, moi qui ne suis pas du tout un solitaire à terre. Tout ce côté méditation, ce côté se retrouver avec soi-même. Et puis cette progression aussi que j'ai eue, mais c'est ça qui m'a passionné aussi en ce défi, c'est de pouvoir progresser tout au long du défi sur moi-même, sur ma capacité à gérer l'extrême, à gérer le bateau, à gérer mon sommeil, à gérer les tempêtes. Ça a été du coup le suspense jusqu'au bout, parce que la fin du parcours s'est avérée un peu la plus difficile. Finalement, c'est pas forcément quand on navigue près des côtes que c'est plus dangereux, quand on navigue que c'est plus calme. Au contraire, c'est par exemple en mer Rouge, quand on navigue dans une mer très fermée comme ça, il y a des cailloux de partout, il y a des cargos à la queue leu-leu, il y a des vents contraires, beaucoup de courants, et ça rend la navigation très compliquée. Et c'est vrai que cette partie du parcours qui était sur la fin plutôt, s'est avérée compliquée pour moi. Heureusement que je m'étais préparé et anticipé avec des navigations un peu plus paisibles, on va dire. C'est difficile de dire ça dans un défi aussi périlleux, mais sur des traversées de l'Atlantique, par exemple, j'ai eu le temps de m'accoutumer quand même au bateau. Quoi.
Qu'est-ce que vous vouliez prouver, ou qu'est-ce que vous vouliez vous prouver avec ce voyage, avec cette aventure, cette expédition?
Je voulais déjà revenir sur les traces de ce que j'avais fait pendant mon enfance. C'est vrai que quand après, on est passionné par la mer, passionné par les bateaux, par la course et tout, et on se demande d'où on vient, pourquoi on a fait ça. Et c'est vrai que mes parents, qui étaient boulangers à la Chaux-de-Fonds et qui ont tout largué dans les années 70 pour aller faire le tour du monde, j'avais forcément des souvenirs de ce tour du monde. J'étais jamais revenu sur ces traces-là. J'avais eu la chance d'aller à l'école aux Marquises, à Tahiti, etc. Et voilà, c'était la plus belle des manières de revenir sur ce parcours en y allant par la mer. Et voilà, donc ça, c'était un peu ma première motivation. La deuxième, c'est surtout l'amour du kata de sport. Je navigue sur ces petits katas depuis l'âge de 13 ans. Et même quand j'ai eu la chance de naviguer sur les plus grands multicoques au monde, dans les années 90-2000, ben voilà, ma passion, ça a toujours été le week-end de revenir sur les petits katas de sport. Et j'en ai fait une spécialité à partir de 2008, de commencer à me lancer les défis à traverser la Morange, la Méditerranée, et d'aller au Cap Horn avec un kata de sport de série. Et voilà, petit à petit, bah, de monter crescendo. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on avait un petit peu tout inventé. Aujourd'hui, on sait faire des grands multicoques de 40 mètres qui vont à 40 nœuds. Et que je me suis dit que la difficulté, finalement, c'était peut-être pas d'aller dans l'escalade de la technologie, mais plutôt de naviguer, au contraire, d'essayer de mener des petits bateaux sur des mers démontées, quoi.